1 Corinthiens chapitre 1 versets 4 à 7. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, savoir de ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat. Que le Seigneur bénisse cette méditation que nous avons aujourd'hui. Il s'agit de la quatrième partie de cette série que j'ai intitulée « Le troisième Élie ». Et celle-ci s'intitule « L'esprit de prophétie, témoignage aux Laodicéens ». L'esprit de prophétie, témoignage aux Laodicéens. Et c'est une façon de comprendre l'esprit de prophétie et les témoignages de Jésus aux Laodicéens assez particulière en ce que elle diffère plutôt de la manière traditionnelle que les adventistes ont l'habitude de présenter ce sujet, s'ils le présentent un tant soit peu. Dans notre étude précédente, vous vous rappellerez, nous avons pu faire le lien entre le message d'Élie à Israël, du temps d'Élie, et le témoignage de Jésus, le témoin fidèle et véritable, à l'Église durant la période de Laodicée. Vous vous rappellerez, Élie disait à Israël, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» Nous avons regardé, nous avons bien réfléchi, nous avons conclu, contemplé et conclu que boiter des deux côtés, c'est équivalent à n'être ni froid ni bouillant, ce qui est la condition des Laodicéens, de l'Église de Laodicée, telle que Jésus s'adresse à elle dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19 et aussi jusqu'au verset 21. Être ni froid ni bouillant, c'est être tiède, c'est boiter des deux côtés, n'est-ce pas? C'est être ni entièrement pour Dieu, ni entièrement pour le monde. Et c'est, comme nous l'avions vu, cette condition à laquelle le troisième Élie est destiné à remédier. Et nous avons vu que ce n'est pas juste le troisième Élie, mais que le troisième Élie est bel et bien synonyme avec ce témoignage de Jésus à Laodicée que nous retrouvons, comme je viens de le dire, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Donc nous avons bien fait le rapprochement entre le troisième Élie et le témoignage de Jésus à Laodicée. Quoique vers la fin surtout de notre dernière méditation sur dans l'esprit et la puissance d'Élie. Donc nous avons vu que dans l'esprit et la puissance d'Élie, c'est plus que l'idée que l'on pourrait se faire de quelque chose de très glorieux, c'est surtout un esprit d'un message qui appelle le peuple Dieu à ne plus boiter, et c'est précisément ce que Jésus fait lorsqu'il s'adresse à Laodicée. Vous voyez? Mais ce que j'aimerais que nous voyons ici, et ce que j'aimerais, cette question que j'aimerais poser pour enclencher notre méditation actuelle, c'est: pouvons-nous voir davantage dans la parole de Dieu ce lien-là? Pouvons-nous voir ce lien-là davantage dans la parole de Dieu? Ce lien entre le troisième Élie et le témoignage de Jésus à Laodicée. Parce que vous allez voir que ça va donner davantage de sens aux paroles centrales et thématiques de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, et aussi aux paroles de Malachie chapitre 3, versets 1, surtout versets 1 et 2. et suivant, parce que cela continue et cela a à voir avec la purification du peuple de Dieu la purification du sanctuaire céleste et du lieu très saint, tout particulièrement du sanctuaire céleste. J'aimerais pour cela que l'on s'attarde sur les paroles de 1 Corinthiens chapitre 4, pardon, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 8. C'était notre lecture biblique, mais maintenant nous allons le lire jusqu'à la fin. Je me suis arrêté au verset 7. Nous reprenons ici verset 4 jusqu'au verset 8 pour arriver à voir la signification du témoignage de Jésus à la Odyssée et son lien avec ce qu'on appelle communément le témoignage de Christ, le témoignage de Jésus-Christ. C'est une expression que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Je lis ici 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, savoir de ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez quoi ? Irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment ? Par le moyen du témoignage de Christ qui, disait-il, avait été confirmé en eux, quoique il reste encore à être confirmé en nous. Donc pour les Corinthiens, ce témoignage de Christ avait été confirmé en eux. Et avant que nous poursuivions ici, quel est ce témoignage de Christ? Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Selon la Bible, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, un verset assez familier qu'il ne nous faut pas pour autant mettre de côté. Apocalypse chapitre 19, verset 10, je lis, Jean déclarait ceci, « Or, je me jetais à ses pieds, aux pieds de l'ange, pour l'adorer, mais il me dit, de point, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, disait-il, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Quel est le témoignage de Jésus? Quel est l'équivalent en termes de mots et expressions? Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Hein? Donc l'esprit d'inspiration prophétique. Vous voyez? L'esprit de prophétie, c'est ça le témoignage de Jésus. Donc l'apôtre Paul disait, selon que le témoignage de Christ ou l'esprit de prophétie a été confirmé en vous, comment? Parce qu'il croyait en l'esprit de prophétie dans ceux à qui avait été confié le don de prophétie, notamment l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Dieu lui a confié l'esprit, lui a accordé l'esprit de prophétie pour qu'il puisse faire ce qui est écrit, je crois, dans... je crois que c'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Ne pas dire de bêtises, soit de Pierre, soit un Pierre. De Pierre, chapitre 1, verset 21. « Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. » Et nous avons un exemple typique de cela dans l'exemple de l'apôtre Paul, qui, étant poussé par le Saint-Esprit, a parlé et a écrit toutes ces épîtres qui aujourd'hui constituent une grande partie du Nouveau Testament, qui eux-mêmes qui lui-même constitue une partie importante de la parole de Dieu. Vous voyez? Et donc il pouvait dire, non pas simplement par rapport à lui et son don, la mission dont il a été chargé, mais de tous les autres écrivains de la parole de Dieu, notamment dans la Torah et tous les écrits que eux ils avaient déjà et auxquels venaient s'ajouter les écrits de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean et de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jacques, oui, qui constituent pour nous la parole de Dieu parce que ces hommes étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. Et donc ils disaient, selon que le témoignage de Christ ou l'esprit de prophétie a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si ces paroles étaient applicables aux Corinthiens, à combien plus forte raison sont-elles applicables à nous qui avons vu naître, encore une fois, en ces derniers temps, tout particulièrement en accomplissement de la prophétie de Malachie, l'esprit de prophétie. Donc, sans plus tarder ici, sans tergiverser, je devrais dire, j'aimerais lire cette déclaration suivante de Message choisi à la page 30 et au paragraphe 1, où Sir White disait le suivant. Message choisi, volume 1, page 30. Je lis. Et voici que maintenant, quand je vous adresse un témoignage d'avertissement et de censure, plusieurs affirment que Sir White n'a exprimé que sa propre opinion. Par là, vous avez offensé l'Esprit de Dieu, car vous savez comment le Seigneur s'est manifesté par le moyen de l'Esprit de prophétie. Le passé, le présent et l'avenir m'ont été dévoilés, des visages inconnus m'ont été montrés, que j'ai reconnu des années plus tard quand j'ai eu l'occasion de les voir. Il m'est arrivé d'être arraché à mon sommeil avec une vive sensation de sujet qui m'avait été présenté précédemment. Alors j'ai écrit, vers minuit, des lettres qui ont traversé le continent et sont arrivées à point à une heure de crise et ont évité de graves désastres à la cause de Dieu. Telle a été la nature de mon travail pendant bien des années. Un pouvoir supérieur m'a contrainte à reprendre et censurer des torts dont je n'avais aucune idée. Cette œuvre, poursuivie pendant 36 années, est-elle d'en haut ou d'en bas? C'est une bonne question ici. Sir White elle-même, sous inspiration, posait la question ici dans cette lettre, qui aussi, nous vient aussi à nous en écho, qui nous est aussi indirectement et directement adressée, cette œuvre poursuivie pendant 36 années, à la date à laquelle elle écrivait ces lignes, est-elle d'en haut ou d'en bas? Donc, en d'autres termes, est-ce que c'est du diable ou est-ce que c'est de Dieu? Parce que si c'est du diable, alors il n'y a rien qui vaut quoi que ce soit dedans. Mais si c'est de Dieu, alors il nous faut prendre en compte tout ce qui est dit. Vous comprenez? Et donc, c'est là que nous voyons la force des paroles de l'apôtre Paul, mais tout particulièrement applicable à nous en ces derniers jours, à qui et pour qui et en faveur de qui l'esprit de prophétie a été donné. Pourquoi? Pour nous confirmer dans le témoignage de Christ, de sorte qu'il ne nous manque aucun don à nous qui attendons la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien plus nous, aujourd'hui, en tant qu'adventistes du septième jour, combien plus peut-il être dit de nous que nous attendons la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui portons le nom même d'adventistes, qui veut dire des personnes qui attendent l'avènement, savoir le second avènement de Christ. Et verset 8, il vous affermira, Dieu, notre Seigneur lui-même, Jésus lui-même nous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, vous avez cette continuité de l'activité de l'esprit de prophétie qui n'est pas exclusivement applicable à ces derniers jours, mais qui a tout le long de la vie de l'Église de Dieu été actif du temps des prophètes, du temps même des anciens patriarches, du temps des apôtres, bien entendu, et cela tout le long des années. Contrairement à ce que certains protestants affirment selon quoi le don de prophétie aurait pris fin après la vie des apôtres. En effet, la parole de Dieu ne nous parle d'aucune telle fin du don de l'esprit de prophétie, parce que Dieu lui-même, dans ses simples paroles de la parole de Dieu, dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin », à savoir le témoignage de Christ. Dieu parle au témoignage de Christ en confirmant le témoignage de Christ en vous, continuera cette activité pour vous affermir jusqu'à la fin, pour que vous soyez quoi ? Irrépréhensible au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sont les seuls qui sont irrépréhensibles à ce jour-là ? Ce ne sont autres que les 144 000 qui nous sont présentés dans l'Apocalypse chapitre 14. Vous voyez, donc tout cela est indissociable. Mais pour que nous parvenions à une telle condition d'irrépréhensibilité, si le mot existe, ou d'être irrépréhensible, ou comme c'est marqué dans Apocalypse chapitre 14 verset 5, n'ayant point de fraude dans notre bouche, étant sans tache devant le trône de Dieu, il nous faut être confirmés et avoir le témoignage de Christ étant confirmé en nous. C'est là que j'aimerais poursuivre notre lecture de l'esprit de prophétie à travers la déclaration suivante, qui se trouve dans Bible Commentary, volume 7, et page 966, paragraphe 8, où il est écrit. Et je prends cela ici, je le tiens de notre école du sabbat de cette année 2022, deuxième semestre, hein, section 2, leçon 5 et question 6. Oui, non, la question, c'est peut-être la question d'ailleurs, question 4. Donc, Bible Commentary, volume 7, 966, paragraphe 8, Sir White disait ceci. Il y a de l'espoir pour nos églises si elles acceptent de tenir compte du message aux Laodicéens. Ici, faites le lien ici avec moi. Sir White disait, si l'esprit de prophétie disait, il y a de l'espoir pour nos églises, donc elle parle bien ici des églises différentes, de toutes les assemblées de l'église adventiste du septième jour. C'est pour ça qu'elle emploie le mot nos. Il y a de l'espoir pour nos églises, si quoi? Si elles acceptent de tenir compte du message aux Laodicéens. Est-ce que vous arrivez à discerner le lien ici entre le témoignage de Jésus aux Laodicéens, relaté tel qu'il est relaté dans Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 21, et les messages portés par l'entremise de Sir White? C'est important d'arriver à discerner le lien qui est établi à travers les déclarations ici. Est-ce que vous pouvez voir, comme c'est marqué ici, je reviens à la déclaration juste avant, et voici que maintenant, Message choisi, volume 1, page 30, verset 1. Voici que maintenant, quand je vous adresse un témoignage d'avertissement et de censure, plusieurs affirment que Sir White n'a exprimé que sa propre opinion. Donc, Sir White, ici, parlait d'une attitude qui était, qui, était prévalente, je crois qu'on dit ça, qui dominait ou qui existait du moins parmi les adventistes. C'est-à-dire que quand Sir White envoyait une lettre, il disait, voilà, c'est l'opinion de Sir White. Et qu'est-ce qu'elle disait au sujet de cela? Par là, vous avez offensé l'Esprit de Dieu. Car vous savez comment le Seigneur s'est manifesté par le moyen de l'Esprit de prophétie. Le passé, le présent et l'avenir m'ont été dévoilés, etc. Ensuite, elle reprend ces choses-là. Et donc, nous étions en train de lire que le témoignage de Christ, c'est l'Esprit de prophétie, et que les restes de la postérité auxquels le diable fait la guerre, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ici, nous y venons dans Apocalypse chapitre 12. Ceux qui... Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde le témoignage de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et ces personnes-là qui ont le témoignage de Jésus-Christ, ce ne sont autres que ces personnes-là auxquelles Jésus s'adresse dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 21, où il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillon, ce que nous avions vu dans notre étude précédente, nous avions fait le lien entre cela, comme je l'ai mentionné juste avant, entre cela, ce message de Jésus à Laodicée, du témoin fidèle et véritable à Laodicée, entre ce message-là et le message du premier Élie. Et c'est comme cela que nous pouvons faire le parallèle entre le premier Élie et le second et le troisième. Et ce personne-là qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, comme je le disais, ce ne sont autres que les personnes auxquelles est adressé le message de Jésus à Laodicée. Et là, c'est là que nous voyons le lien. Est-ce que nous pouvons voir que c'est en réalité la même activité? Le témoignage de Jésus aux Laodicéens et le témoignage de Jésus-Christ, c'est en fait la même chose. Et pouvons-nous voir que le don de l'esprit de prophétie manifesté dans les écrits de Sir White est en fait l'accomplissement concret de la brève description donnée dans Apocalypse chapitre 3 versets 14 à 21. Parce que c'est alors que vous allez voir l'amplitude de toutes les fois où il est fait mention dans les écrits de Sir White du témoignage aux Laodicéens. Ce n'est pas juste les paroles qui sont écrites dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 21, c'est l'élargissement de ces paroles-là, mais dans les écrits de l'esprit de prophétie, à savoir les écrits de Sir White. C'est important d'arriver à établir ce lien-là, parce qu'aujourd'hui, parmi les adventistes, il est fort à douter que c'est la position qui est aujourd'hui prise et crue, qui pourtant était crue du temps des pionniers. Aujourd'hui, n'est-ce pas aujourd'hui l'esprit qui prévaut parmi les pasteurs et les anciens et les diacres et tout ce que vous voulez, que ce que nous lisons dans les livres de Sir White, ce n'est que l'opinion de Sir White, hein? Où on dira peut-être c'est un bon enseignement, c'était une personne qui avait des connaissances bibliques. Qu'est-ce que c'est quand nous pensons comme cela? Qu'est-ce que nous faisons? Par là, vous avez offensé l'Esprit de Dieu, en disant juste, ah, elle a des connaissances, elle nous éduque. C'est pas ça, c'est le témoignage de Jésus aux Laodicéens. Vous voyez? Parce qu'en fait, quand nous sommes en train de dire, vous voyez, c'est facile parce que, comme nous allons le voir juste après, il s'agit de quelque chose, plus souvent, de tranchant. Ce sont des messages tranchants qui, lorsque nous ne sommes plus à dormir, nous réveillent ce qui est désagréable pour la chair et pour l'homme qui n'a pas pris l'habitude de marcher selon l'esprit et qui n'est pas... décidé à marcher selon l'esprit et pour ce faire à crucifier la chair et ses œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour cela que j'aimerais que nous lisions la déclaration suivante qui nous donne un élargissement inspiré du témoignage à Laodicée. Dans Testimonies for the Church, volume 4, page 88, où il est écrit ce qui suit. Le témoin véritable nous conseille d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier. L'or ici recommandé et qui a été éprouvé par le feu, c'est la foi et l'amour. Cet or enrichit le cœur car il a été dans la fournaise jusqu'à ce qu'il soit pur. Et plus il a été raffiné, plus il brille. Le vêtement blanc, c'est la pureté de caractère, la justice de Christ impartie aux pécheurs. Il s'agit en effet d'un vêtement de texture céleste qui ne peut être acheté que de Christ pour une vie d'obéissance volontaire. Vous voyez, vous lui donnez à Jésus votre obéissance volontaire et vous recevez ce vêtement de texture céleste qui est la pureté de caractère. Le collier, c'est cette sagesse et cette grâce qui nous permettent de discerner entre le mal et le bien et de détecter le péché sous toutes ses formes. Et là, notez ce qui est dit ici. Dieu a donné à son Église des yeux qui lui demandent d'oindre de sagesse afin qu'elle puisse voir clairement. Mais beaucoup seraient prêts à crever les yeux de l'Église s'ils le pouvaient, car ils ne veulent pas que leurs œuvres viennent à la lumière de peur d'être repris. Le collier divin apportera de la clarté à l'intelligence. Christ est le dépositaire de toutes les grâces. Il dit « Achetez de moi ». Vous discernez ici, frères et sœurs, le fait que dans cette déclaration notamment, et d'ailleurs comme dans beaucoup d'autres, on parle de Dieu à la première personne, et que ce n'est pas directement Dieu qui s'adresse au peuple à la troisième personne, et donc ce n'est pas Dieu qui s'adresse au peuple à la première personne, mais que on parle de lui à la troisième personne du singulier. Il, le témoin véritable, nous conseille. On aurait l'impression que donc ce n'est pas Dieu parce que c'est quelqu'un qui nous parle de Dieu. Sauf que si vous regardez la parole de Dieu, c'est souvent également le cas que ceux qui étaient poussés par le Saint-Esprit et qui ont parlé ou qui ont écrit parle également de Dieu à la troisième personne du singulier. Or, pourtant, c'est la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc, quand bien même on nous parle du témoin véritable à la troisième personne du singulier, il dit cela, il fait cela, il nous conseille, il nous appelle, il nous exhorte, ça n'en est pas moins la parole de Dieu. Ça n'en est pas moins le témoignage de Jésus aux Laodicéens. Parce que dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, nous y revenons brièvement, il y a écrit ceci, « Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, de point, je connais tes œuvres. » Donc ici, c'est Dieu qui parle, c'est Jésus d'ailleurs, je devrais préciser, c'est Jésus lui-même qui parle à la première personne du singulier. Et donc on pourrait s'attendre que, voilà, le témoignage de Jésus aux Laodicéens, c'est à chaque fois que Jésus parle à la première personne du singulier. « Je te dis cela, tu fais ceci, da, 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 da. » Or, ce n'est pas le cas. Vous comprenez ? Le témoignage de Jésus aux Laodicéens, c'est, s'élargit ou comprend toutes les autres déclarations qui sont contenues dans les écrits inspirés de Sir White, qui constituent à eux-mêmes l'esprit de prophétie qui, selon ce que nous avions lu dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, est le témoignage de Jésus. Vous voyez ? Parce que j'ai bien fait les liens ici. Fait les liens entre ce que la Bible dit à ce sujet-là, comment elle s'interprète elle-même, et comment Sir White, dans ses écrits, disait Vous savez bien que l'esprit de prophétie s'est manifesté pendant toutes ces années. Le passé, le présent et le futur m'ont été dévoilés. C'est ça qui était marqué, hein. Le passé, le présent et l'avenir m'ont été dévoilés. Par là, car vous savez comment le Seigneur s'est manifesté par le moyen de l'esprit de prophétie. Et vous savez qu'elle parle des choses qui lui ont été confiées parce qu'elle dit, le passé, le présent et l'avenir m'ont été dévoilés. Vous voyez comment elle fait le lien? Nous allons continuer cela d'ailleurs. Nous allons continuer cela dans la déclaration qui suit, que l'on peut trouver dans Faith and Works à la page 83 et au paragraphe 1. Je vais la trouver ici dans l'école du sabbat. Je crois que c'est... on va voir. L'école du sabbat, section 2, leçon 5. Question 2, c'est leçon 5 et question 2. Voilà ici, encore une fois, l'élargissement inspiré du témoignage à Laodicée. Mais avant que nous passions à cela, j'aimerais attirer votre attention vers cette déclaration que nous lisions juste avant, hein, Testimonies for the Church, volume 4 et page 88. Où il est écrit, c'est important ici, par rapport à ce fait que Jésus dit à Laodicée, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. C'est intéressant parce que nous, on peut penser, alors, collier, oui, je suppose, un collier, je comprends, ou pas. Voyez, nous, si ce n'était que ça, on en serait remis plutôt plus ou moins à nous-mêmes, on en serait abandonné plus ou moins à nous-mêmes. Certes, la parole de Dieu peut expliquer cela, mais autrement, ça relève un peu de notre propre interprétation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est le collier? Et ici, elle disait, Dieu a donné à son Église des yeux qui lui demandent d'oindre de sagesse afin qu'elle puisse voir clairement. Quels yeux Dieu a-t-il donné à son Église? L'esprit de prophétie. Pour qu'elle voie. Pour qu'elle voie non pas selon sa propre conception de la vérité et du droit et de la justice et du péché, mais selon la conception de Dieu. Mais, qu'est-ce qu'elle dit? Mais beaucoup seraient prêts à crever les yeux de l'Église s'ils le pouvaient, car ils ne veulent pas que leurs œuvres viennent à la lumière de peur d'être repris. Oh. C'est difficile, frères et sœurs, difficile de nos jours où nous sommes tant bombardés par l'iniquité, de vaincre un tel esprit où nous voulons crever les yeux de l'Église. Quels sont les yeux? Je viens de le dire. L'esprit de prophétie nous a été donné pour oindre nos yeux afin que nous voyions les choses du point de vue de Dieu plutôt que de notre point de vue charnel et déformé. Dites-moi, frères et sœurs, aujourd'hui, dans les milieux adventistes, est-ce que les hommes n'ont-ils pas crevé les yeux chaque jour de leur vie afin qu'ils ne soient pas éclairés sur leurs œuvres, que leurs œuvres ne viennent pas à la lumière, s'ils rejettent l'esprit des prophéties, n'ont-ils pas infiniment crevé les yeux de l'Église? Vous comprenez? Ils ne veulent pas voir. Nous ne voulons pas voir. Et donc nous crevons les yeux de l'Église. Nous disons, comment faisons-nous cela? Nous disons, c'est l'opinion de Sir White. C'est l'opinion de Sir White. Plus, d'une manière plus édulcorée, qui semble plus douce à notre conscience, nous disons, oh, elle enseigne des bonnes choses. Vous vous rappellerez de Nicodème, il disait, venez-y avec moi brièvement, dans, je crois que c'est Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Nous pouvons tous faire cela, frères et sœurs. Examinez. Jean chapitre 3, Nicodème venait à Jésus. Jean chapitre 3, verset 2. Cet homme, or il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, de point, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, etc. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Qu'est-ce qu'il disait? Nous savons que tu es un docteur, tu enseignes des bonnes choses, certainement Dieu est avec toi. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Est-ce que Jésus lui a dit, ah oh, merci, c'est gentil. Ah, c'est bien ce que tu me dis. Ah, j'apprécie. Ah, tu es sage, tu as du discernement. Non. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hein? Jésus disait, tu n'es pas venu avec la bonne expression. Un docteur, c'est comme si tu renies ma mission. Vous voyez? Et donc, quand nous disons de Sœur White, oh oui, elle enseigne bien la parole de Dieu, elle a beaucoup d'enseignements bibliques, nous n'avons pas compris. Nous faisons cela pour que nos œuvres ne viennent pas à la lumière. Hein? Pour que le côté tranchant ne nous touche pas, ne touche pas à nos péchés particuliers. Nous disons, c'est l'opinion de Sir White. Ou nous disons, c'était du temps de Sir White. Les choses, elles ont changé maintenant. Non, moi, maintenant, je vis ma vie et tout. Les choses, c'est pas la même chose. C'est pas comme ça que nous serons confirmés dans le témoignage de Christ. Ce n'est pas comme cela. Et donc, nous voulons ne pas crever les yeux de l'Église, mais les garder intacts afin que Dieu puisse oindre nos yeux, afin que nos yeux puissent être en harmonie avec les yeux que Dieu a donnés à son Église, par le témoignage de Jésus aux Laodiciens, qui n'est autre que, par extension, l'esprit de prophétie. Et toute personne qui relate ces leçons et ces exhortations et ces avertissements communiquent également le témoignage de Jésus aux Laodiciens. Simplement, nous voulons voir ici clairement le lien établi entre l'expression « esprit de prophétie » et tout ce que cela implique, et celle qui est l'expression « témoignage de Jésus aux Laodiciens » et tout ce que cela implique par rapport aux paroles de Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 21. Maintenant, j'aimerais lire donc ce que je voulais lire dans Faith and Works, à la page 83. Page 83 et paragraphe 1. L'élargissement, nous sommes encore dans l'élargissement de élargissement inspiré de ce témoignage à la Odyssée. On ne se borne pas simplement à lire ce passage. On veut approfondir pour vraiment laisser Jésus nous conseiller et nous rendre ce témoignage. Plutôt que de dire, ah, c'est bien, je crois avoir compris et de vouloir être abandonné à nos propres interprétations. Je lis. Le témoin véritable dit à une église froide, sans vie et sans Christ. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirais de ma bouche. Remarquez les paroles suivantes, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable, et pauvre et aveugle et nu. Voici un peuple qui tire sa gloire de sa connaissance spirituelle et des avantages qu'il possède. Mais ils n'ont pas répondu aux bénédictions imméritées dont Dieu les a comblés. Ils ont été rebelles, ingrats. Et ils ont oublié Dieu qui a pourtant été pour eux ce qu'un père aimant et clément est pour un fils ingrat et pervers. Ils ont résisté à sa grâce, ils ont abusé de leurs privilèges, ils ont laissé passer les occasions favorables, ils se sont laissés sombrer dans le contentement d'eux-mêmes, dans une ingratitude lamentable, dans un formalisme vide et dans l'hypocrisie. Avec un orgueil pharisaïque, ils se sont glorifiés à tel point qu'il a pu être dit deux points. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et donc, quel est l'objectif de Dieu dans tout cela? C'est ce qui est exprimé au verset 19 d'Apocalypse chapitre 3, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Dieu, dans son amour, châtie tout ce qu'il aime et il déclare des choses qui sont insupportables à l'oreille charnelle. On ne supporte pas. D'ailleurs, c'est pour cela, c'est parce que c'est tant insupportable à l'homme charnel que tant de pasteurs adventistes ont abandonné leur foi au témoignage. Pour eux, c'est juste une source d'éducation biblique parmi tant d'autres. Pourquoi ? Parce que cela illustre, et ces déclarations illustrent si bien leur vie, et la nôtre peut-être. Mais quand Dieu dépeint si bien, avec des tracés si distincts, notre vie de rébellion, qu'est-ce que nous ferons ? Et c'est là que nous déciderons et que nous déterminerons quelle personne nous allons être, par notre réponse au témoignage de Jésus aux Laodicéens. Par notre réponse à quoi ? À l'esprit de prophétie. C'est Jésus qui parle. Et Jésus ne dit pas que des choses où il nous caresse dans le sens du poil. Surtout si notre poil a poussé dans le sens du monde. Vous comprenez ? Surtout si nous sommes laissés aller dans le sens du monde. Vous savez, comme j'ai tendance à le dire, c'est beaucoup plus facile de nager dans le sens du courant qu'à contre-courant. Dans le sens du courant, vous n'avez rien à faire, il suffit juste de vous laisser aller, vous allez flotter jusque dans la mer, dans le monde, en plein dans le monde. Mais pour aller à contre-courant, il faut faire des efforts, comme c'est le cas dans ces fameuses rivières canadiennes. Oui, vous avez ces saumons qui remontent les cours d'eau jusqu'à monter à ces espèces de lacs où alors ils peuvent se reproduire. Et j'aimerais également lire la déclaration suivante qui se trouve dans Testimonies for the Church à la page 408. Et paragraphe 2. L'avertissement de Christ à ceux qui sont indifférents en ce temps est, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse chapitre 3, verset 16. C'est son avertissement, l'avertissement de Christ à ceux qui sont indifférents. Vous vous rappellerez? Cela revient directement à ce fameux message d'Élie, lorsque Élie leur dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» Et personne ne lui répondit un mot. Donc personne ne voulait prendre de position. Donc autrement dit, ils étaient indifférents. Ils avaient cru dans le sens de croître, ils avaient cru jusqu'à devenir indifférents. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Pardon. Et qu'est-ce que cela veut dire, cette image de vomir de sa bouche? Quand il dit « je te vomirai de ma bouche », l'image de vomir de sa bouche signifie qu'il ne peut offrir vos prières ou vos expressions d'amour à Dieu. Il ne peut en aucun cas approuver votre enseignement de sa parole ou votre travail spirituel. Il ne peut présenter à Dieu vos exercices religieux en demandant que la grâce vous soit accordée. Donc ça veut dire que quand Jésus dit « je vais te vomir de ma bouche », ça ne veut pas dire qu'il va te détruire. Ça veut dire que nos prières et nos expressions d'amour à Dieu, Jésus ne peut plus les offrir à Dieu. Rappelez-vous, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. L'homme Jésus-Christ. Mais l'homme Jésus-Christ, qui est notre médiateur intercesseur, dit que si nous ne voulons pas nous consacrer à sa cause et que nous voulons rester indifférents, ni froid ni bouillant, il nous vomira de sa bouche. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'offrira plus nos prières ni nos expressions d'amour à Dieu. Il ne peut en aucun cas approuver votre enseignement de sa parole ou votre travail spirituel. Quand et pourquoi et dans quelles circonstances si nous restons tièdes, indifférents à son appel à la repentance. Et je poursuis par la déclaration de Bible Commentary, volume 7, page 966, paragraphe 7 à 8. Nous sommes encore dans l'élargissement inspiré du témoignage aux Laodicéens ici. L'élargissement, ce que cela veut vraiment dire. Donc, parce que, autrement, vu que notre cœur est peut-être endurci, nous n'allons pas discerner ces descriptions tranchantes du sens profond du témoignage de Jésus aux Laodicéens tel qu'il est présenté brièvement dans les paroles d'Apocalypse chapitre 3 versets 14 à 21. Si nous vivons de manière charnelle, nous n'allons pas le discerner parce que nous ne sommes pas enclins à cela. C'est pour ça que l'esprit de prophétie nous a été donné pour briser toutes ces barricades de la chair et ses mauvaises habitudes et ses caractères fautifs, disons. Je lis. 7BC 966, paragraphe 7. Mais le conseil du témoin véritable ne représente pas la situation de ceux qui sont tièdes comme un cas désespéré. Il leur reste encore une chance de remédier à leur condition et le message laodicéen est plein d'encouragement. Car l'Église rebelle peut encore acheter l'or de la foi et de l'amour. Elle peut encore se procurer la robe blanche de la justice de Christ, afin que la honte de sa nudité ne paraisse point. La pureté du cœur et la pureté des motifs peuvent encore aujourd'hui caractériser ceux qui sont tièdes et qui s'efforcent de servir à la fois Dieu et Mammon. Ils peuvent encore laver leur robe de caractère et les blanchir dans le sang de l'agneau. Il y a de l'espoir pour nos églises si elles acceptent de tenir compte du message aux Laodicéens. Il y a de l'espoir pour les Laodicéens si elles acceptent de recevoir ce message et de tenir compte de ce message de Jésus aux Laodicéens, à Laodicée. Et c'est pour cela, parce qu'il y a de l'espoir que Jésus dit « Je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et te repens. » C'est là qu'est l'encouragement et c'est là qu'il y a de l'espoir. C'est parce que Jésus dit « Je ne te reprends pas parce que tu es sans espoir et irrémédiable. Je te reprends parce que je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Et donc, frères et sœurs, quoique cela n'y paraisse peut-être pas au premier abord, et à tous les abords suivants que nous avons peut-être dont nous avons peut-être fait l'expérience à travers les années, parce que ça, quoi que cela ne paraisse peut-être pas, parce que nous lisons souvent les paroles des réprimandes de Dieu avec les lunettes de Satan sur le nez, c'est avec un cœur plein d'amour que Jésus adresse cet appel aux Laodicéens. Et rappelez-vous, si nous vivons dans cette période de Laodicéen, ce qui est notre cas aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus, eh bien cet appel est applicable. Et nous ne serons jamais à l'abri de la nécessité de cet appel pour nos cœurs et notre vie spirituelle. En d'autres termes, nous sommes toujours en danger, pour une raison qui est exprimée dans les paroles de Matthieu chapitre 24, verset 12, nous serons toujours en danger jusqu'à la fin du temps de grâce de devenir comme c'est décrit dans les paroles de Jésus, sa description du Laodicéen, ni froid ni bouillant, tiède, à savoir indifférent, à savoir boitant des deux côtés. Pourquoi ? Comme c'est marqué dans Matthieu chapitre 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est pour ça qu'il est marqué dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, c'est ici la patience des saints, c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est ici ceux qui ont persévéré malgré l'iniquité qui s'est multipliée, qui n'ont pas permis, ou du moins qui ont réchauffé leur amour, et quoique leur amour s'est peut-être refroidi. Mais notez ici que dans le contexte de ces derniers jours, lorsque leur amour se refroidit, il ne va pas devenir tout froid jusqu'à ce qu'ils sortent de l'église, du moins pas pour la grande majeure partie d'entre eux, tels qu'ils sont présentés ici dans ce conseil de Jésus aux Laodiciens, mais il va devenir tiède, vous savez, entre les deux. Et c'est ce que Jésus déteste. Entre les deux, c'est-à-dire ni pour Dieu ni pour le monde. Pourquoi est-ce que Dieu préférerait qu'ils soient pour le monde? Parce que alors Dieu pourrait les convertir. Mais si nous sommes tièdes, alors nous sommes bloqués dans un formalisme d'indifférence qui nous prépare pour être vomis de la bouche de Jésus, tel que nous l'avons lu juste avant. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions conclure notre méditation, parce qu'il faut le faire quand même, en nous penchant sur la mission du messager telle qu'elle est définie par l'esprit de prophétie. J'emprunte ici cette expression aux paroles de Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Vous allez voir le lien ici. Malachie chapitre 3, verset 1, il est écrit. Bon, déjà au verset 5, au verset 4, au chapitre 4, verset 5, Dieu disait, voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Et au chapitre 3, verset 1, il dit également, ce qui est directement lié, comme nous l'avions vu précédemment, voici, je vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et verset 2 est très intéressant à la lumière de ce que nous sommes en train de voir par rapport à cette activité de Jésus pour les Laodiciens, et tout particulièrement dans son témoignage aux Laodiciens par l'esprit de prophétie, il est écrit au verset 2, « Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons, il sera assis, fondant et purifiant l'argent, etc. » Comment est-ce qu'il va purifier l'argent? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire quand il purifie l'argent? Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Comment est-ce que cela se produit concrètement? C'est-à-dire que Dieu présente au peuple de Laodicée ses erreurs, ses errances et ses rébellions, et ainsi il les fond et il les purifie. Vous voyez? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Beaucoup ne peuvent pas soutenir, dans le sens où ils ne peuvent pas supporter ce jour-là de la venue de Jésus dans le lieu très saint, pendant laquelle période il opère à travers l'esprit de prophétie dans son peuple, dans ceux qui croient en ce don de prophétie. Et beaucoup ne peuvent pas soutenir, ils ne peuvent pas supporter, ils disent, c'est l'opinion de Sir White, non mais c'est une bonne enseignante, elle connaît beaucoup de choses bibliques. Ou nous dirons, même nous, aujourd'hui, en tant que réformateurs, nous disons, oh, c'est vraiment, elle dit beaucoup de bonnes choses, je devrais le partager à cette personne-là, je devrais en parler à cette personne-là. L'esprit de prophétie, il dit que quand nous lisons les témoignages, Jésus veut dire moi. Jésus veut parler à moi tout d'abord. Et par extension, si moi je suis prêt à vivre en harmonie avec cela, alors moi je peux parler de ces choses-là, mais seulement dans la mesure où moi j'ai décidé de me consacrer au service de Dieu et de me conformer moi aux conseils, aux exhortations et aux corrections insupportable de l'esprit de prophétie. Insupportable, pourquoi? Pour la chair. Parce que la chair ne supporte pas d'être contredite et d'être appelée à mourir. La chair est en mode survie, elle dit, non, moi je ne fais pas toutes ces choses-là. Et donc c'est là qu'il nous faut crucifier la chair. Crucifier l'homme, le vieil homme avec ses convoitises et nous revêtir du nouvel homme, c'est-à-dire être né de nouveau. ce que Jésus conseillait à Nicodème de faire quand Nicodème venait et disait, voilà, tu es un bon docteur, tu sais plein de choses. Jésus dit, non, ce n'est pas ça, il faut que tu viennes avec un autre esprit, tu te renouvelles complètement, tu nais de nouveau. Et que je dise, quand l'esprit de prophétie vient à moi, voilà, Seigneur, tu me parles à moi. Plutôt que de dire, ah, tu es un bon docteur. Ah, c'est bien, l'esprit de prophétie, c'est rempli de choses vraiment éducatives. Non, non. Dieu ne veut pas juste nous éduquer. Dieu veut nous transformer. Dieu veut que nous soyons consacrés. Dieu veut nous perfectionner. Dieu veut nous purifier pour que nous puissions subsister quand il paraîtra physiquement. Et pour cela, il nous faut arriver à subsister lorsqu'il se présente à nous et qu'il paraît devant nous par l'entremise de l'esprit de prophétie. Souvent, nous ne subsistons pas. Nous disons, ah, je ne sais pas, c'était pour eux. C'est comme cela que eux, ils faisaient du temps de Sir White, ils disaient, c'est l'opinion de Sir White. Ou ils disaient, Sir White est influencé par son mari. Et nous, que faisons-nous aujourd'hui? Nous disons, ah, c'est bien, c'est vraiment très intelligent tout cela, mais c'est pas pour moi. C'est dangereux, frères et sœurs. Moi, je confesse que c'est mon grand danger. Et nous pouvons vaincre ce danger, nous pouvons, comment? En décidant que ce ne sera pas la personne que nous serons. Que nous ne deviendrons pas irrémédiablement des Laodicéens que Jésus est contraint de vomir de sa bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne peut plus offrir nos exercices religieux en demandant qu'ils soient approuvés de Dieu. C'est-à-dire que nous venons à Dieu, nous disons voilà, da 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 da, da nous, Seigneur, bénis-nous, et la prière, elle ne monte pas au-dessus du plafond. Jésus dit, refusez, prière refusée. Vous avez une liste de toutes les prières que les personnes qui professent croire au message du troisième ange, elles envoient à Dieu, et vous avez, et voilà, et Dieu, il écrit, prière refusée. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le témoignage de Jésus aux Laodicéens. Imaginez un peu, des milliers de personnes d'adventistes qui ont leur prière refusée. Pourquoi? Parce que nous avons refusé d'être purifiés. Nous avons refusé que Dieu nous parle. Nous disons, c'est l'opinion de Sir White, nous disons, c'est très éducatif. C'est une bonne enseignante. Mais ce n'est pas pour moi. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est là le troisième Élie. Et c'est là que le troisième Élie, on peut pas s'arroger le droit de dire, voilà, je suis le troisième Élie. Je ne suis le troisième Élie que quand je suis prêt à accepter ce que Dieu me dit sur moi et que je suis dans une disposition de cœur où je peux communiquer ce que Dieu a transformé en moi. Alors je n'aurai rien en quoi me glorifier. Vous comprenez? Parce que ce ne sera pas une œuvre de la chair, ce sera une œuvre de l'esprit et ça m'humiliera complètement. Je n'aurai rien dont je pourrais me glorifier. Je ne pourrais pas dire aux personnes, voilà tout ce que j'ai fait. Non, je dirais, vraiment, pendant de nombreuses années, je n'ai pas été la personne que j'aurais dû être, mais je reconnais que le Seigneur est à l'œuvre dans l'esprit de prophétie. Donc, ce que je voulais dire, je vais le faire. La déclaration suivante avec laquelle nous allons pouvoir conclure. Voilà la mission du messager, que nous lisions dans Malachie chapitre 3. La mission du messager définie ici. Quelle était et quelle est la mission d'Ellen White d'après le Seigneur? Je lis ce qui suit dans Message choisi, volume 1, page 36, paragraphe 2, jusqu'à la page 37, et paragraphe 2. Message choisi, volume 1, page 36. Elle disait, je n'avance aucune prétention si ce n'est ceci. J'ai été désignée comme la messagère du Seigneur. Il m'a appelée dans ma jeunesse à être sa messagère, à recevoir sa parole et à communiquer un message clair et précis au nom du Seigneur Jésus. Alors que j'étais encore jeune, on m'a souvent demandé « Êtes-vous une prophétesse ?» Ma réponse invariable a été « Je suis la messagère du Seigneur. » Je sais que plusieurs m'ont appelée prophétesse, mais je n'ai jamais prétendu à ce titre. Mon Sauveur m'a déclaré que je suis sa messagère. Il m'a dit « Ta tâche consiste à porter ma parole. On doit s'attendre à des choses étranges. Je t'ai mise à part dès ta jeunesse pour apporter un message à ceux qui s'égarent, pour présenter la parole aux incroyants et réprimander par la plume et par la voix, au moyen de la parole, ceux qui se rendent coupables d'actions répréhensibles. Exhorte par la parole, je te ferai comprendre ma parole, elle ne sera pas pour toi un langage étrange, avec la vraie éloquence de la simplicité, par la voix et par la plume, mes messages seront transmis par quelqu'un qui n'a pas fréquenté les écoles, mon esprit et ma puissance t'accompagneront. Voilà ce que Jésus était en train de dire à ce roi d'ici. Il continue. Ne crains pas les hommes, car mon bouclier te protégera. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur qui donne les messages d'avertissement et de répréhension. Qu'aucune circonstance ne te fasse dévier de la vérité. Communique la lumière que je te donnerai. Les messages livrés pour ces derniers jours seront consignés dans des livres et s'élèveront à jamais contre ceux qui, après s'être réjouis dans la lumière, se sont laissés gagner par les séductions du mal. Fin de citation. Ensuite, elle pose la question. Pourquoi n'ai-je pas réclamé le titre de prophétesse? Parce qu'elle disait, des personnes m'ont demandé est-ce que je suis prophétesse. Elle disait, que je retrouve cela. Je n'avance aucune prétention si ce n'est ceci, j'ai été désignée comme la messagère du Seigneur. Alors que j'étais encore jeune, on m'a souvent demandé, êtes-vous une prophétesse? Ma réponse invariable a été, je suis la messagère du Seigneur. Et ensuite, à ce sujet, elle dit, pourquoi n'ai-je pas réclamé le titre de prophétesse? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs de ceux qui se donnent pour prophètes jettent l'opprobre sur la cause de Christ. Et aussi, parce que mon œuvre couvre davantage que ce que le mot prophète signifie. Donc pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas réclamée du titre de prophétesse? Parce que son œuvre couvre davantage, c'est-à-dire plus, que ce que le mot prophète signifie. À savoir, Sœur White, elle n'est pas juste prophétesse, elle est la messagère du Seigneur. Et, c'est bien beau de le dire, mais c'est tout particulièrement nécessaire pour nous de le reconnaître lorsque les messages qui nous viennent par son entremise sont tranchants et illustrent si bien notre condition de rébellion. Le Seigneur lui disait, je reviens, ne crains pas, ça c'est page 36, paragraphe 4, ne crains pas les hommes car mon bouclier te protégera. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur qui donne les messages d'avertissement et de répréhension. Donc vous voyez, si Jésus disait à Sœur White, ce n'est pas toi qui parles, c'est le Seigneur qui donne les messages d'avertissement et de répréhension, alors nous pouvons clairement dire que c'est le témoignage de Jésus. D'ailleurs, c'est la description qui nous est marquée dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, c'est le témoignage de Jésus aux Laodicéens. Vous voyez ? Et donc, je termine par le paragraphe 2, page 37. « Lorsque cette œuvre me fut confiée pour la première fois, disait-elle, je suppliais le Seigneur de placer ce fardeau sur quelque autre personne. L'œuvre me paraissait si étendue et si profonde que je craignais de ne pouvoir l'accomplir. Mais l'Esprit du Seigneur m'a rendu capable de m'acquitter de la tâche qui m'a été confiée. » Vous voyez ici la mission de la messagère du Seigneur définie ici par le Seigneur même et par l'inspiration, parce qu'au début c'était Jésus qui parlait à la première personne, et ensuite bien entendu c'est l'esprit de prophétie, qui est toujours le témoignage de Jésus, c'est juste à la troisième personne du singulier. Et dans la déclaration suivante, elle continuait pour définir davantage sa mission. Page 37, paragraphe 5, 3, où elle dit: Dieu m'a montré clairement les diverses manières dont il voulait m'employer en vue d'une œuvre particulière. Elle cite: Si tu délivres les messages avec fidélité, en persévérant jusqu'à la fin, tu mangeras du fruit de l'arbre de vie, tu boiras de l'eau du fleuve de vie. Telle est la promesse qui m'a été faite dans des visions. Le Seigneur m'a donné beaucoup de lumière au sujet de la réforme sanitaire. Je devais accompagner mon mari en qualité de missionnaire chargé du travail médical. Je devais donner un exemple à l'Église en soignant des malades chez moi. C'est ce que j'ai fait, administrant de vigoureux traitements à des femmes et à des enfants. En qualité de messagère officielle du Seigneur, je devais parler sur le sujet de la tempérance chrétienne. J'ai mis tout mon cœur à cette œuvre, m'adressant à de vastes assemblées, exposant la tempérance dans le sens le plus large. Il m'a été dit que je dois constamment insister auprès de ceux qui font profession de croire à la vérité sur la nécessité de la pratiquer. Ceci implique la sanctification, sanctification qui exige que l'on cultive et développe tous les talents en vue du service du Seigneur. Voilà la mission de la messagère définie ici, sans l'ombre d'un doute, bien délimitée par l'inspiration. Et j'aimerais conclure notre méditation sur le troisième Élie, quatrième partie, l'esprit de prophétie, témoignage de Jésus aux Laodicéens, par cette déclaration de Message choisi, volume 1, page 31 et paragraphe 1 et 2. Quelle est la voix que vous reconnaîtrez comme la voix de Dieu? Quel moyen reste à la disposition du Seigneur pour corriger vos erreurs et vous faire comprendre ce qu'il pense de votre conduite? Quelle puissance peut encore agir dans l'Église? Si vous refusez de croire avant que soit dissipée toute incertitude et toute possibilité de doute, vous ne croirez jamais. Le doute qui exige une parfaite connaissance ne cédera jamais devant la foi. La foi repose sur l'évidence, non sur une démonstration. Le Seigneur nous demande d'obéir à la voix du devoir, alors même que d'autres voix autour de nous nous conseillent une conduite opposée. Il faut beaucoup d'attention de notre part pour discerner la voix qui vient de Dieu. Il nous faut résister à nos inclinations et les vaincre, obéir à la voix de la conscience sans parlementer ou faire des compromis, de peur que cessent ces appels et que nos passions prennent le dessus. La parole du Seigneur s'adresse à tous ceux qui n'ont pas résisté à son esprit en refusant d'écouter et d'obéir. Cette voix nous adresse des avertissements, des conseils, des répréhensions. C'est le message lumineux que le Seigneur communique à son peuple. Attendre des appels plus puissants ou des occasions plus favorables, c'est risquer que la lumière soit retirée et que nous restions dans les ténèbres. Vous voyez ici comme c'est sérieux et comme c'est important pour nous de reconnaître la voix de Dieu dans l'esprit de prophétie, comme c'était la question. Quelle est la voix que vous reconnaîtrez comme la voix, comme celle de Dieu? Hein? Autrement dit, est-ce que vous accepterez de reconnaître la voix de Dieu dans les écrits de l'esprit de prophétie comme s'adressant directement à vous, à moi, à nous? Ou est-ce que vous crèverez les yeux de l'Église? Hein? Quel moyen reste à la disposition du Seigneur pour corriger vos erreurs et pour vous faire comprendre ce qu'il pense de votre conduite? Autrement dit, si nous rejetons l'activité du Saint-Esprit dans notre vie dans la mesure où Dieu cherche à révéler nos erreurs et à nous faire comprendre ce qu'il pense de notre conduite, cette question implique et laisse à supposer qu'il n'a plus d'autre moyen. C'est-à-dire que nous nous dérobons au Seigneur le moyen qu'il a choisi pour nous amener à la perfection, nous amener à la victoire de ce reste victorieux de ces 144 000. Quelle puissance peut encore agir dans l'Église si nous refusons de reconnaître la puissance qui s'adresse à nous et qui souhaite nous avoir un impact sur nous dans l'esprit de prophétie. Discerner. Et donc c'est pour ça qu'elle dit que le Seigneur nous demande d'obéir à la voie du devoir, alors même que d'autres voix autour de nous nous conseillent une conduite opposée en ces derniers jours où l'iniquité s'est multipliée. D'autres voix, la voix de la chair, certes, la voix du diable, la voix du monde, toutes les voix dans le monde nous appellent, nous conseillent une conduite opposée à celle que Dieu nous conseille d'adopter et contraire à la voix que Dieu désire que nous écoutions et que nous obéissions, la voix du devoir. L'esprit de prophétie sans cesse fortifie et éduque notre voix du devoir, éduque notre conscience et nous appelle à écouter et obéir à la voix du devoir, de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est droit. Il nous faut résister à nos inclinations et les vaincre, obéir à la voix de la conscience sans parlementer ou faire des compromis, de peur que cessent ces appels et que nos passions prennent le dessus. La parole du Seigneur s'adresse à tous ceux qui n'ont pas résisté à son esprit en refusant d'écouter et d'obéir. Cette voix nous adresse des avertissements, des conseils, des répréhensions. C'est le message lumineux que le Seigneur communique à son peuple. Comment ? Par l'esprit de prophétie. Et donc, frères et sœurs, pour conclure, si nous désirons appartenir à ce troisième Élie, ce message du troisième ange, qui déjà depuis plus d'un siècle s'enfle en un grand cri, il nous faut aujourd'hui accepter et nous soumettre aux instructions et aux avertissements qui nous viennent de la part de Jésus dans les témoignages de l'esprit de prophétie. Et alors, ce témoignage de Christ, s'il est bel et bien confirmé en nous, en ce que nous acceptons d'y voir et d'y entendre la voix de Dieu qui nous parle, ce témoignage de Christ nous préparera jusqu'à la fin, comme c'était marqué, nous affermira jusqu'à la fin, comme c'est marqué, je le relis, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, c'est ma prière que nous prenions ces choses à cœur, que nous y méditions dans notre marche chrétienne, notre marche quotidienne, nos réflexions, et que nous puissions ouvrir bien grand la porte de notre cœur à Jésus et que nous allions pas à pas vers la victoire en laissant au Seigneur ce moyen pour opérer en nous, nous révéler nos erreurs et nous montrer la marche à suivre, nous révéler notre conduite à la lumière de sa parole, à la lumière de sa volonté et à la lumière de son caractère, le caractère de Dieu tel qu'il nous fut révélé en Jésus-Christ. C'est ma prière que le Seigneur vous bénisse et nous éclaire et nous inspire dans cette contemplation continue de l'esprit, de prophétie et de son rôle dans notre préparation pour le ciel. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.